absolutely. Do remember, if you're going outside, and if it's not working, go in.
Pour la COVID-19, on doit tous respecter les consignes d'isolement de la santé publique jusqu'au bout. Quand on a des symptômes, on doit s'isoler. Quand on a passé un test, on doit s'isoler. Quand le résultat est positif, on doit s'isoler. Quand on revient de voyage, on doit s'isoler. Et si on a été en contact avec un cas confirmé, on doit s'isoler. S'isoler, c'est sérieux. S'il vous plaît, faites-le. Information sur québec.ca/isolement. Un message du gouvernement du Québec.
What you wanted us to be. We are what we are. That's the way it's going to be. If you don't know. Bonjour et bienvenue à votre émission La Voix des immigrants. Je suis Yolande Kala, votre animatrice pour aujourd'hui. Comme d'habitude, donc nous sommes officiellement le 24 et puis donc j'en profite là, pour vous souhaiter un bon réveillon puis un joyeux Noël hein, parce que ben Noël c'est demain et puis on ne se revoit pas avant un mois, donc bon réveillon. Soyez sages, surtout là, c'est pas pire cette année, là, les gens restent à la maison. Donc, je sais pas, je me pose la question, est-ce que vous allez avoir besoin des services de nez rouge, là? Je ne pense pas, mais bref, soyez sages tout de même. Donc, aujourd'hui, à l'ordre du jour, nous allons parler de l'accord Canada-États-Unis-Mexique, donc qui est l'ancien ALENA. L'ALENA qui est donc l'accord de libre-échange nord-américain. Puis je vous en parle parce que j'ai réalisé un travail sur le sujet et puis je trouvais ça intéressant. Bref, voilà, d'en parler. J'ai lu pour la première fois sur ce fameux accord sur l'ALENA. Puis bon, j'ai appris beaucoup, donc je trouvais ça important, intéressant de vous en faire part. Et également, donc, on parle donc via l'accord donc, de toute la question donc, du travail migrant, puis ben, évidemment, c'est du phénomène donc, d'atteinte aux droits fondamentaux des travailleurs migrants. Donc, c'est bien que vous soyez au fait donc, de tout cela. Donc, voilà pour notre sujet du jour. Au niveau des manchettes, j'en parle tout de suite. Là, j'allais vous quitter pour une petite pause brève musicale. En fait, pause musicale hein, de 30 secondes, mais bref, j'en parle tout de suite. Donc, au niveau des manchettes, le reconfinement, donc vous savez que M. Legault a décidé que oui, on était reconfinés, hein. Puis donc jusqu'au 11 janvier, donc du 25 décembre au 11 janvier, je crois que tous les commerces sont fermés, à peu près tous les commerces, sauf la SAQ et la SQDC. Bon. Pourquoi? Aucune idée, mais bon, la SAQ, donc vous pourrez aller acheter une bouteille de vin, c'est ce que dit M. Legault, puis vous pourrez aller acheter la marijuana. Mais bon, sinon les commerces sont ouverts, sont fermés. Pour les personnes seules, donc elles pourront fréquenter, et puis bon, j'ai lu ça dans un article, donc fréquenter une bulle familiale du 17 au 11 janvier, donc 17 décembre au 11 janvier, on est le 24 aujourd'hui, mais bref, donc jusqu'au 11 janvier, les personnes vivant seules pourront fréquenter une bulle familiale. Puis donc Legault pense aux étudiants qui reviennent chez leurs parents durant les fêtes ou aux personnes âgées, par exemple. Le télétravail est obligatoire. Il faut donc limiter les contacts le plus possible. Au niveau des centres commerciaux également, donc il y a des nouvelles, des barrières imposées en fait, aux restrictions en fait, là, parce que c'est ce qu'on dit, donc on a constaté qu'il y avait un peu, les gens se laissaient aller un peu dans les commerces, dans les centres commerciaux. Donc voilà, on a resserré les barrières dans les centres commerciaux. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est que le reconfinement, donc tout est fermé jusqu'au 11 janvier, à part la SQDC puis la SAC. Puis voilà, essentiellement c'est ça. Puis il y a le vaccin, donc les vaccins sont arrivés au Canada, au Québec également. Là. J'écoutais les nouvelles tout à l'heure et je crois qu'au Saguenay, la vaccination a débuté.
qui sera vacciné en premier. En fait, je pense que les gens de la santé également, donc les, probablement les gens malades, personnes âgées, mais bref. Donc, un jour, votre tour va arriver. J'étais, lors de la dernière émission, je parlais justement du vaccin, puis bon, j'ai comme enfin, mais bon, finalement, je pense que n'étant pas malade, je vais attendre très longtemps. Puis, c'est ça. Puis bon, est-ce que j'y tiens? Oui, j'y tiens. Je pense que c'est important, mais bref, je pense que pour la plupart d'entre nous, nous allons devoir être patients. Donc, voilà. Pour la manchette d'aujourd'hui, on poursuit là. En début de l'émission, on écoutait la pièce Babylon System de Bob Marley. Donc, on l'écoute jusqu'à la fin ensemble, puis on se retrouve donc dans à peu près là, 3 minutes avec notre sujet à l'ordre du jour, l'accord Canada-États-Unis-Mexique. Donc, voilà pour vous. Soaking the children day by day. Yeah. Miss that the Babylon system is a vampire. Falling empire. Soaking the blood of the sufferer.
Sucking the blood of the sufferers.
Me revoilà au micro, c'était Babylon System de Bob Marley. Voilà, une vieille chanson. Là, voilà, ça fait longtemps, Bob Marley. Là, j'ai comme oublié. Je l'ai oublié pendant ça, depuis. Ça. En fait, ça fait bien longtemps que j'écoute plus vraiment de musique. Là, donc, c'est bien d'écouter. Ça fait du bien d'écouter une pièce de Bob aujourd'hui, de Bob Marley. Donc, voilà notre sujet, l'accord Canada-États-Unis-Mexique. En fait, je disais qu'il est l'ancien, qu'il remplace l'ALENA. L'ALENA qui a été signé en 1994, créant une zone de libre-échange. Donc, une zone qui va abaisser les barrières tarifaires à l'intérieur d'une certaine région. Et qui donc va faciliter l'échange de biens et de services donc, à l'intérieur de cette région. En fait, l'accord Canada-États-Unis-Mexique, qu'on surnomme ACUM, en fait, qu'on surnomme, c'est pas vrai. L'abréviative, c'est ACUM, donc A-C-E-U-M, est rentré en vigueur officiellement le 1er juillet 2020, donc ça fait pas très longtemps, puis c'est pour ça que c'est intéressant là, qu'on s'en parle aujourd'hui. Donc, ce super accord constitue l'un des plus importants blocs économique du monde. Hein. Et puis là, je vous fais part d'un texte. En fait, là, j'ai été pigé d'informations sur le site Internet de l'accord. Donc, vous pouvez aller sur Google. Il n'y a pas juste Google, évidemment. Google et puis, voilà, taper accord Canada-États-Unis-Mexique. Là, vous allez trouver une panoplie d'informations. Donc, voilà. Donc, l'accord constitue l'un des plus importants blocs économiques du monde. Il permet au Québec donc de consolider son accès au marché nord-américain, hein, nord-américain, qui représente près de 75% des exportations mondiales. De ces exportations mondiales, c'est quand même pas pire. On est quand même très, très dépendant en fait là, des États-Unis. Donc, l'accord contient des dispositions modernisées qui auront des répercussions positives sur l'économie québécoise, hein, apparemment. Donc, on a un chapitre qui traite du commerce numérique, qui facilite l'utilisation du commerce numérique et qui comporte notamment donc des dispositions visant à protéger les consommateurs contre les activités frauduleuses en ligne. Pire. Ensuite, on a un chapitre sur les petites et moyennes entreprises qui prévoit une meilleure coopération afin de les aider à profiter des occasions d'affaires créées par l'accord. Hein, c'est pas pire. Il y a beaucoup de PME au Québec, je crois bien. On a un chapitre sur l'environnement. Un chapitre sur le travail dans lequel les trois pays s'engagent à respecter les normes, en fait, des normes de travail élevé, hein, puis c'est bien parce que, ben, je vais vous en parler, là, l'ALENA, en fait, il y a plusieurs chercheurs qui ont étudié, là, les conséquences, les impacts de l'ALENA, puis bon, c'est pas très gai, là, qu'on parle tout ce qui est travail, conditions de travail. Donc, au niveau de la culture, maintenant, c'est bien, on dit qu'on parle d'une exemption culturelle, donc, qui s'applique à l'ensemble des chapitres de l'accord, donc, également au niveau là, du chapitre sur le commerce. Essentiellement, ce que ça veut dire, c'est que, donc, cette exemption va permettre au Québec de conserver son ancienne marge de manœuvre pour adopter et mettre en place des mesures visant à protéger et promouvoir la culture québécoise. Donc, le français, en fait, va demeurer une langue officielle. Voilà, donc une version apparemment là, française de l'accord et puis qui est aussi... d'aussi grande importance que la version anglaise. Hein. Parce que hein, les Québécois, je vais vous parler du négociateur, quel était le négociateur là, de l'accord? C'était Maître Raymond Bachan. Donc, lui, son mandat, en fait, c'est de protéger la culture québécoise, les intérêts québécois à travers ce nouvel accord Canada-États-Unis-Mexique. Quand même pas pire. Donc, on s'assure, là, en fait, M. Legault, ouais, c'est assuré de protéger les intérêts du Québec. Au niveau du travail, il y a de nouvelles dispositions concernant le travail. Donc, ce qu'on veut, c'est s'assurer qu'on a des normes élevées qui font en sorte qu'il n'y aurait, par exemple, pas d'atteinte au niveau des droits fondamentaux. Donc, les dispositions du chapitre sur le travail pourront dorénavant être mises en œuvre de manière contraignante. Donc, il y a un mécanisme de règlement des différends qui fait en sorte que les parties vont pouvoir, si jamais il y a une problématique quelconque, les parties vont pouvoir s'entendre pour régler ce différend. Le Mexique... important, hein, parce que le Mexique, hein, on pense au tiers-monde, puis bon, hein. Donc le Mexique s'est engagé à mener plusieurs réformes pour améliorer la protection du droit d'association, puis de négociation collective dans son droit interne. Donc le Canada et le Mexique ont d'ailleurs établi un mécanisme d'intervention rapide visant à s'assurer du respect de la liberté d'association et du droit de négociation. Donc, voilà. Puis, c'est bien. En fait, ben, tant mieux. Hein? Je veux dire, quand on lit la littérature au niveau du Mexique, on parle de bas salaire, d'atteinte aux droits fondamentaux, toujours d'exploitation, d'inégalité sociale. Donc, si l'accord, en fait, si cette fois-ci, on peut arriver à établir, là, mettre en place de meilleures conditions de travail pour les Mexicains, mais tant mieux. Espérons que ce soit réellement le cas. Donc, au niveau de l'environnement, donc, voilà, en fait, on a un chapitre sur l'environnement qui contient donc de nouvelles dispositions ambitieuses qui parlent de qualité de l'air, de biodiversité, de gestion durable des forêts et puis d'espèces exotiques, des espèces exotiques envahissantes. Il y a des institutions qui sont maintenues, donc apparemment, donc, il y a une commission de coopération environnementale établie à Montréal, donc en lien avec cet accord, donc Canada, États-Unis, Mexique. Puis bon, ça, je l'ai pas compris. Donc, le nouvel accord comprend aussi une lettre complémentaire qui précise que l'eau n'est pas visée par l'accord. Donc, ça veut dire quoi? Je sais pas ce que ça veut dire. Ça m'intéresse. Voilà. Est-ce que finalement on peut user, là, utiliser l'eau sans contrainte? Puis, hein, on imagine les impacts d'une utilisation massive sans contrainte de l'eau. Donc, j'ai pas compris ce que ça voulait dire. Vous pouvez, si ça vous tente, là, appeler à l'émission, bref, effectuer des recherches pour savoir, comprendre ce que ça veut dire. Donc, l'eau n'est pas visée par l'accord. Et l'accord ne donne aucun droit relatif aux ressources naturelles hydriques des autres parties. Bon, ça a l'air de faire du sens, mais l'eau n'est pas visée par l'accord. Bref, question de recherche. Donc, au niveau des petites et moyennes entreprises, voilà ce qu'on comprend, c'est que le chapitre, en fait, l'accord prévoit une meilleure coopération afin d'accroître les possibilités de commerce et d'investissement pour les PME. L'accord prévoit donc une simplification des formalités donc pour ces PME, donc c'est des formalités douanières et des procédures sur les règles d'origine qui inciteront les avantages à investir. Donc, allez lire l'accord, c'est quand même très facile à lire, on a l'impression que c'est quelque chose de complexe là, pour des super hommes d'affaires et femmes d'affaires, mais finalement non, c'est très facile à lire. Là. Donc voilà, puis vous pourrez lire sur les règles d'origine, sur le chapitre sur l'environnement, sur le travail également. Donc, voilà. Donc, finalement, ce qu'on comprend, c'est qu'on peut nous-mêmes participer. En fait, tout le monde peut participer à ce libre-échange de biens et services. Donc, je disais que Maître Raymond Bachan, un ancien ministre des Finances et du Développement économique, a été le négociateur en chef pour le Québec. Donc, il a reçu donc le mandat donc de défendre et de promouvoir les intérêts québécois. Le Québec a donc été présent à chacun des cycles de négociation. Même quand bon, les négociations avaient eu aux États-Unis et au Mexique. Donc, M. Bachan a défendu d'autres priorités, donc le maintien d'un accès privilégié aux États-Unis en matière de mobilité des gens d'affaires. Donc, je pense que on a un droit privilégié pour ce qui est d'accès au travail aux États-Unis. Puis bon, et en tant que femme d'affaires. Également, donc, M. Bachan a défendu donc des règles et procédures d'origine plus souples pour certaines entreprises québécoises afin qu'elles puissent plus facilement exporter leurs produits, la conservation du mécanisme de règlement des différents masseurs de droits anti-dumping, notamment dans l'industrie du bois d'œuvre. Puis la reconnaissance donc de l'hydroélectricité comme énergie renouvelable. Donc voilà le dossier, ce qu'a fait M. Bachan. Maintenant, donc, concernant donc, les impacts de l'ALENA dans différents secteurs d'activité. Je disais, bon, là, on a un nouvel accord, c'est magnifique, hein? Mais donc l'ALENA, en fait, ça n'a pas été... je veux dire, il y a beaucoup de gens qui sont contre l'ALENA, puis ce genre de grands accords commerciaux, parce que ben, il y a des impacts apparemment à plusieurs niveaux. Évidemment, je vous parlerai des impacts au niveau du travail. Donc, ce qu'on dit, puis donc je parle d'un texte de Madame Dugas, je crois bien, oui, Sylvie Dugas, donc une chercheure qui, voilà, étudie les impacts de l'ALENA, donc un texte paru, écrit en 2004. Donc, l'ALENA a eu plusieurs conséquences, donc au niveau du travail, on parle, évidemment, hein, on pense à délocalisation d'entreprise, mais ces fameuses délocalisations sont vraiment, en fait, entre autres en lien beaucoup avec cette zone, en fait, le libre-échange, la mondialisation des marchés, la libéralisation des marchés. Donc depuis l'ALENA, donc on parle donc d'un fléchissement au niveau des salaires, donc une baisse au niveau des salaires, accroissement de revenus, donc baisse au niveau des salaires. Pourquoi? Ben parce que je sais pas. Hein? Bonne question. Je lisais un texte d'un monsieur, d'un professeur à l'UQAM, Sid Ahmed Soucy, qui disait que depuis l'ALENA, donc il y a eu une désyndicalisation de certains secteurs au Québec, donc l'hôtellerie, restauration, ensuite il y a les mines et autres secteurs. Pourquoi? Parce que finalement, il y a beaucoup de travailleurs migrants, puis les travailleurs migrants, hein, donc ces accords de commerciaux, dont l'ALENA, font en sorte qu'il y ait une bonne, comment dire, une masse de travailleurs migrants qui arrivent ici au pays, au Québec. Puis finalement, ben, ces gens-là, évidemment, hein, ce sont des gens d'ailleurs, donc on les paie à bas salaire. Et parce que maintenant, dans certains secteurs, on s'est rendu systématisé, donc le recrutement de travailleurs migrants. Donc, les employeurs de ce secteur ont maintenu à la baisse donc les conditions de travail. Donc, Madame Dugas parle de fléchissement des salaires, donc c'est entre autres pour cette raison. Donc finalement, c'est plus facile de... On attend la venue d'un travailleur immigrant, puis bon, hein, voilà. Et donc, on n'a pas besoin de ça. En fait, on n'a pas besoin d'améliorer nos conditions de travail parce que des travailleurs migrants vont finir par occuper nos emplois. Donc, le taux de syndicalisation qui est à la baisse, donc j'ai parlé du secteur hôtelier surtout, toute syndicalisation qui est à la baisse, précarité croissante des emplois, progression du travail informel, c'est comment ça se concrétise, là, il faut faire une étude, mais précarisation croissante des emplois, progression du travail informel, ensuite, voilà, donc toute syndicalisation à la baisse. Les femmes ont été impactées, affectées par ce phénomène, donc, par cette libéralisation des marchés. Donc, là, on parle de zones franches, les zones franches un peu, voilà, donc on a notre zone de libre-échange, puis une zone franche, c'est un peu, en fait, la zone franche, c'est une forme de zone de libre-échange, mais davantage, là, justement, pour le travail, le niveau du travail et tout. Donc, voilà, les femmes ont été impactées. Évidemment, au niveau là, des zones franches, au Mexique, on parle des maquilladoras, des manufactures, des super bas salaires. Puis bon, les Canadiens et Américains vont... se rendre aux États-Unis, bon, hein, ouvrir une entreprise, ben, en fait, ouvrir un commerce, une succursale, puis finalement, ben, on paye 15 fois moins cher, donc les femmes, évidemment, sont affectées. Bon, de quelle façon concrètement, il faut étudier, mais elles sont affectées davantage par ce phénomène de libéralisation des marchés. Puis voilà. Puis au niveau des femmes, ben, c'est plus compliqué pour elles également parce que de créer une entreprise, parce qu'elles sont dominées par un monde là, de firmes multinationales où finalement, bon, ce sont des hommes principalement là, qui dirigent le tout. Je vous parle maintenant d'un texte de M. Pilon, Jean-Luc Pilon, donc qui a écrit donc justement sur l'industrie du vêtement, donc à la suite donc de la mondialisation, donc de la libéralisation des marchés. Un texte écrit en 2005. M. Pilon dit que donc l'industrie du vêtement est un secteur, en fait, a été fortement touché. C'est un secteur à forte prédominance féminine et immigrante. Puis donc ce qui s'est passé globalement, c'est que bon, l'industrie du vêtement a été fortement affectée par cette mondialisation, donc depuis même avant le début, même avant l'ALENA, mais davantage une fois la signature de ce genre de grands accords commerciaux. Donc ces accords facilitent grandement la délocalisation de la production de l'industrie des vêtements dans d'autres pays, les pays du Sud, hein, donc le Mexique, dont le Mexique, il y en a d'autres, mais quand on parle de l'ALENA, on fait référence au Mexique, donc dans les pays du Sud. Pourquoi? Ben, en fait, on a une main-d'œuvre, évidemment, qui est un bon marché, on le sait tous. Donc, ça devient plus avantageux pour eux d'aller travailler, d'aller faire produire leurs vêtements au Mexique. Finalement, on paye les gens à 25 sous de l'heure versus le salaire minimum là, au Québec, là, qui est même plus que le salaire minimum. Là. Donc, le salaire minimum qui est de 12 et 10, je crois. Donc, ça devient plus avantageux pour eux. Puis voilà. Donc, c'est dommage pour les gens d'ici hein, qui perdent leur emploi. Le secteur du vêtement est un secteur à forte prédominance féminine, donc ce phénomène de délocalisation a grandement affecté les femmes. Les femmes, finalement, qui se retrouvent du jour au lendemain sans métier. Puis, voilà. Donc, on pense que c'est super, hein, ces histoires de libre-échange puis de commerce international, mais il y a beaucoup d'impact. Hein, puis, c'est ça. Les employeurs sont toujours à la recherche de profit. Donc, hein, on veut abaisser les coûts de main-d'œuvre. Donc, la meilleure des choses, c'est d'aller ailleurs, hein, parce que finalement, c'est facile. Puis, ben, après, parce que le libre-échange permet l'exportation facilement, puis sans barrière tarifaire, etc. Donc, voilà. Mais finalement, c'est. Hein, on pense à faire des sous, mais finalement, les impacts se font sentir chez nous. Hein. Donc, voilà. Au niveau du travail immigrant, ce que je disais, c'est bon que j'avais réalisé un travail. Donc, M. Sid Ahmed Soussi, qui est un enseignant à l'UQAM, a écrit un texte. Et puis également, donc, il y a Mme Delphine Nakache, je l'appelle Nakache, mais c'est peut-être Nakache, son nom de famille. Donc, Madame Delphine Nakache, qui parle donc justement de ce travail migrant. Donc, il y a une signature d'un accord commercial et puis finalement, donc, une masse de gens qui arrivent ici au pays pour travailler. Ces gens-là, ce sont des gens qui viennent d'ailleurs, hein, puis qui ne parlent, ne maîtrisent pas toujours le français, qui ont de beaux espoirs, mais finalement, c'est ça. Finalement, le rêve américain, comme on dit, tombe à l'eau rapidement. Donc, on parle d'une grande atteinte au niveau des droits fondamentaux, parce qu'on parle d'une main-d'œuvre qui est exploitable. Ils ne maîtrisent pas le français, des gens qui connaissent pas leurs droits, des gens qui sont vulnérables, hein, et puis bon, les employeurs d'ici le savent, puis c'est vrai pour les États-Unis également, je parle du Québec, mais c'est vrai pour les États-Unis, donc on a ces gens qui viennent d'ailleurs des pays du Sud, des pays du tiers-monde, et puis finalement, donc ce sont des gens évidemment très exploitables. Monsieur Soussi fait allusion à une discrimination systémique. Donc, voilà, ces gens, on sait qu'ils arrivent et puis on sait qu'on s'accorde le droit en tant qu'employeur de leur accorder donc de bas salaires puis de dire que finalement, ben, c'est ça, vous devez travailler, hein, c'est 50 heures par semaine. Hein, les aides familiales qui viennent principalement des Philippines, hein, c'est assez fou hein, comme condition de travail. Là, vous pourrez lire sur leur situation. Voilà, je pourrais même discuter un jour sur le sujet, donc le sujet des aides familiales avec une copine là, qui a travaillé, qui a été présidente, je crois, là, de l'Ordre des aides familiales Pinay, là, des aides familiales philippinoises du Québec, bref. Donc, c'est assez fou. Puis ça fait longtemps qu'on parle de cette situation des aides familiales. Je ne comprends pas pourquoi ça ne bouge pas. Ça fait longtemps qu'on parle des travailleurs étrangers temporaires qui subissent des super. En fait, au niveau des conditions de travail, c'est horrible. Et puis, bon, pourquoi ça ne bouge pas? J'ai de la misère à comprendre, mais bref. Donc, voilà. Donc, atteinte au niveau des droits fondamentaux dans les secteurs de services, hôtellerie, travail saisonnier, agricole, évidemment, là, un super Mexicain qui arrive l'été pour œuvrer dans les champs du Québec. Donc, dans les secteurs des services, hôtellerie, travail saisonnier, agricole, construction et mines. Donc, comme je disais, donc, ce recours au travail immigrant est systématisé. Puis, ce qui fait que c'est finalement, il y a un nivellement vers le bas là, pour les non-migrants. Donc, vous, en tant que Québécois, Québécoise, finalement, ben, parce que le Québec a décidé de privilégier le recrutement de travailleurs migrants, parce que c'est moins coûteux. Ben, vous en subissez les conséquences. Le chapitre 23 de l'accord donc, parle des droits fondamentaux. Ce qu'on lit, c'est que les parties s'entendent pour ne pas réduire, en fait, donc pour ne pas, pour encourager un commerce équitable, c'est-à-dire un commerce qui privilégie, donc, qui. Le droit au travail, qui reconnaît les droits fondamentaux donc, de tous ces travailleurs, en fait des travailleurs, et puis voilà, puis espérons que l'on va penser davantage à ces gens qui arrivent hein, pour travailler. Oui, il y a des professionnels, mais pour travailler également donc, dans les champs l'été. Voilà. Et parallèlement, on a donc l'accord donc de coopération dans le domaine du travail qui veut améliorer également les conditions de travail de ces gens. Donc, allez lire le chapitre 23, l'accord, si ça vous tente de faire de la super lecture. Donc, l'accord Canada-États-Unis, non, l'accord, pardon, nord-américain de coopération dans le domaine du travail. Puis voilà. Il y a également le chapitre 24 là, qui parle d'environnement. Donc, on se laisse. Est-ce qu'on se laisse tout de suite? Bref, en fait, non. Je voulais. On va l'écouter tout de suite. Donc, je voulais qu'on écoute ensemble un super, en fait, un reportage là, sur la mondialisation. Je vais le retrouver. Je l'avais tantôt, là, je l'ai perdu. Donc, un reportage de 30 minutes qui parle justement donc de la mondialisation. Puis voilà, vous allez voir, c'est bien intéressant. Donc, on se laisse pour une petite pause. Je vais trouver le reportage en question. Je reviens, on écoute le reportage, puis on se quitte, on se reparle juste avant la fin de l'émission. Donc, tout de suite, on va écouter Redemption Song de Bob Marley. Je ne suis pas une super bilingue, je suis désolée. Donc, on écoute le Redemption Song de Bob Marley.
Sold I to the merchant ships. Minutes after they took I from the bottomless pit. But my hand was made strong by the hand of the Almighty. We forward in this generation triumphantly. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Ooh, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing
songs of freedom, 'cause all I ever have, redemption songs, redemption songs, redemption songs. Emancipate yourselves from mental slavery. None but ourselves can free our mind. Oh, have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop at the time. How long shall they kill our prophets while we stand aside and look? Yes, some say it's just a part of it. We've got to fulfill the book. Won't you help to sing these songs of freedom? 'Cause all I ever have, redemption songs, all I ever have, redemption songs. These songs of freedom, songs of freedom.
Donc voilà, c'était Redemption Song de Bob Marley. Je suis désolée, là, mon anglais est coussi-coussa aujourd'hui. Donc voilà. Donc j'ai le reportage pour vous. On va parler donc de mondialisation. On parle donc spécifiquement donc de mondialisation, une intégration inégale des territoires. Donc voilà. Un reportage qui dure, je dirais, là, 30 minutes. En fait, c'est pas tout à fait une inégale intégration des territoires. En fait, c'est la partie 2. Je vous présente la partie 1 aujourd'hui, donc la mondialisation en fonctionnement. Puis, lors de la prochaine émission, là, on écoutera ensemble la seconde partie, donc une inégale intégration des territoires. Donc, petit reportage, bien intéressant. Je l'ai écouté hier, en fait, là, très instructif. Et donc, on se retrouve là dans à peu près 30 minutes.
Histoire Géo Tableau présente un chapitre de géographie intitulé « La mondialisation en fonctionnement ». Alors, c'est un gros chapitre dans le programme de géographie, puisqu'on est au cœur de cette notion de mondialisation dont on aura cesse de parler tout au long de l'année, que l'on va décliner sur différents continents dans une partie à venir. Et pour l'instant, on essaye dans ce chapitre sur la mondialisation en fonctionnement, en clair, de comprendre comment ça marche, de proposer une lecture, une compréhension du monde à travers les outils de la géographie. Ce chapitre « Mondialisation en fonctionnement » est suivi d'un chapitre intitulé « Les territoires de la mondialisation », hein, ce sera le G3, qui insistera sur la dimension spatiale. Quelles sont les conséquences de la mondialisation sur des espaces précis à différentes échelles? Voilà. Mais pour l'instant, dans ce chapitre, on reste plus généraliste autour de cette idée de fonctionnement. Alors, on va commencer de manière ambitieuse, sans doute, par essayer de définir précisément ce terme de mondialisation. Hein. Alors, mondialisation, voilà, on l'écrira comme ça dorénavant. Alors c'est un terme qui a été cité pour la première fois dans un journal anglais en 1959, qui est donc pas très récent, et c'est un terme qui depuis de nombreuses années fait débat autour de toutes les réalités qu'il recouvre. Alors on va quand même essayer de le définir simplement. D'abord, la mondialisation, on retiendra qu'il s'agit d'un processus. Ça c'est un mot très important à indiquer. Un processus, c'est-à-dire quelque chose qui est en évolution. Voilà, hein, il y a une dynamique, c'est pas quelque chose qui est posé une fois pour tous, pour toutes. On va revenir sur cette notion, bien sûr. Donc c'est un processus par lequel les échanges de plein de choses, de biens, de services, de capitaux, d'hommes, de cultures, se développent à l'échelle de toute la planète. Donc il y a cette dimension planétaire, bien sûr, et surtout que cela crée finalement des interactions de plus en plus fortes entre les différentes parties du monde. Voilà. Des interactions, on peut le dire également, et c'est le deuxième terme important à noter dans cette définition, ça crée des interdépendances. Voilà. Enfin, ça, c'est vraiment un mot, des interdépendances. Oui, ben voilà, je commence par faire de belles fautes d'orthographe avec un E, bien sûr. Je suis un peu stressé parce que c'est ma première leçon de l'histoire géo au tableau, alors il faudra m'excuser, hein, toutes les petites erreurs à la fois techniques et puis peut-être également dans ce que je vais dire. Bon, alors donc interdépendance, c'est ça, hein, tout est lié. Voilà, toutes les différentes parties du monde échangent, communiquent entre elles, dépendent des autres. Donc on peut dire en fait, et si vous voulez noter une définition donc de cette mondialisation, qu'il s'agit du développement de l'interdépendance au niveau mondial. Voilà. Et puis en géographie, on va le décliner essentiellement par rapport au territoire, hein. Donc ça ne veut pas dire que, évidemment, tous les territoires partout dans le monde sont reliés aux autres, hein. On va voir que tout cela s'est hiérarchisé. Mais ça s'inscrit au niveau de ces territoires. Et alors la grande, grande question au final qu'on va se poser dans ce chapitre, on va dire la problématique, hein, en clair, c'est comment cette mondialisation bouleverse-t-elle l'organisation spatiale du monde, hein? Et c'est vraiment ce mot de bouleversement là qu'on va mettre en évidence, parce que le constat qu'on va dresser finalement, c'est que depuis très peu d'années, hein, il y a eu un grand basculement du monde, des changements énormes, et c'est ce qu'on essaye d'analyser sous l'angle de la géographie. Alors, pour ça, dans ce chapitre, on va distinguer trois parties distinctes, hein. On va d'abord s'intéresser, dans un premier temps, donc précisément à ce processus, hein. Alors, c'est vrai que c'est une partie qui a une dimension historique, assez forte. Hein, où on va voir à quand remontent les débuts de cette mondialisation et les différentes étapes de son évolution. Voilà, et puis on s'intéressera ensuite dans un deuxième temps à ce qu'on va appeler de façon très générale les acteurs de cette mondialisation. Voilà, des personnes, hein, qui agissent, qui décident, qui impulsent cette mondialisation. Alors, personnes physiques, bien sûr, mais souvent personnes morales, hein, des institutions, des organismes, des structures, qui sont à l'origine de ce phénomène qu'on étudie. Voilà. Et puis, dans un troisième temps, on étudiera ce qu'on appelle les flux et les réseaux. C'est-à-dire la traduction spatiale, hein, comment concrètement dans notre monde il y a une variété, une intensité de flux et comment notre planète elle est redessinée par toutes ces choses qui bougent. Voilà dans quel ordre on va essayer de traiter ce chapitre pour comprendre comment ça marche, la mondialisation. Alors sans attendre, le grand 1. Donc, on le disait, autour de ces processus, et qu'on va intituler, pour être un petit peu plus précis, le développement d'un monde interdépendant. Hein, le développement, voilà, que j'écris en abrégé, que j'essaye d'écrire en tout cas, ça marche moyen. Le développement, je le disais, eh bien, d'un monde, voilà, alors que je fasse des progrès avec ma tablette, hein. Interdépendant. Vous avez noté le terme tout à l'heure déjà. Bon. Allez, on va y arriver. Voilà. Je promets d'essayer de faire des progrès. Allez, on descend un petit peu. Donc, le développement d'un monde interdépendant. Il y aura trois sous-parties dans ce grand 1. Nous allons d'abord voir que, il s'agit donc d'un processus ancien. C'est là où il y aura une dimension historique assez forte, mais au-delà du fait qu'il soit ancien, un processus qui s'intensifie depuis quelques années. Voilà, un processus qui s'intensifie. Alors, un processus ancien. On peut voir sur ce petit organigramme que, il y a en clair trois grandes phases dans le développement de la mondialisation. Hein. C'est ce qu'on appelle donc là, ici la première mondialisation. Hein. Vous voyez qu'elle débute dès le 15e, 16e siècle, à la fin du Moyen-Âge, hein, 1492, découverte de l'Amérique par les Européens. Les grandes découvertes, c'est le début des échanges généralisés dans un monde qui jusqu'alors vivait de manière très locale, hein, où les hommes produisaient, consommaient dans un environnement très restreint. Et là, on commence à voir apparaître des grands courants d'échange de matières premières, d'abord bien sûr, d'or, d'hommes, Et c'est ainsi que cette mondialisation est impulsée. Elle reste néanmoins très modeste, hein. Il faut attendre essentiellement, vous voyez, le 19e siècle pour voir la deuxième phase de la mondialisation apparaître. Cette deuxième phase, elle correspond à la période d'industrialisation de l'Europe en particulier, de l'Amérique du Nord, un petit peu plus tard du Japon, à la période également où les grandes puissances européennes vont coloniser l'Asie, vont coloniser l'Afrique, et donc vont générer des échanges de matières premières en particulier. C'est l'époque où se met en place les débuts de ce qu'on appelle la division internationale du travail. Certains territoires sont utilisés, par exemple, pour leurs matières premières, et puis d'autres territoires sont utilisés pour leur transformation, parce qu'ils sont dotés de compétences qui le permettent. Voilà, c'est le début des grands échanges mondiaux au cours de ce 19e siècle. Et puis, une troisième phase de mondialisation. Alors, dont la date est un peu approximative, hein. On parle ici sur ce tableau des années 70, d'autres parlent des années 80, et puis on parle même encore d'une grande accélération dans les années 90. Bref, une période en tout cas très récente, qui correspond à une des politiques ici dites de libéralisation. Hein, on reverra ce terme un petit peu plus tard. Enfin, dans tous les cas, à une échelle considérablement élargie, hein, par rapport à ce qu'étaient les mondialisations précédentes. Donc, c'est un courant, hein, on le précisera bien, qui s'intensifie énormément à partir de la fin du XXe siècle. Voilà. Bon, on va très rapidement passer maintenant donc à la deuxième partie, à la deuxième sous-partie, hein, de ce grand temps. Voilà, on va essayer de rester en blanc, voilà, c'est quand même mieux. Hein, où on va voir que ce processus, dont on a dit qu'il était ancien, repose sur des techniques. Hein, qu'il n'arrive pas ici, de manière hasardeuse, qu'il y a un certain nombre de progrès techniques qui sont déjà à l'origine des grandes découvertes. Vous vous souvenez de vos cours de seconde, hein, où l'on dit que les grandes découvertes ont été permises par des techniques dans la navigation, l'invention de la boussole, du gouvernail, etc. Eh bien, c'est vrai également de cette deuxième mondialisation du 19e siècle, hein, avec les progrès de la science, de la technique, l'industrialisation. Et constamment, donc, ces progrès vont permettre une meilleure mise en relation des territoires à l'échelle mondiale, en particulier lors de cette troisième mondialisation. Et on prendra pour exemple les progrès dans les transports, bien évidemment, hein, et en particulier dans le transport maritime, parce qu'une grande part des échanges de marchandises, en tout cas, hein, dans le cadre de la mondialisation, s'effectue par voie maritime. Nous aurons d'ailleurs un chapitre entier consacré aux espaces maritimes. On peut noter dans le transport maritime le fait que depuis déjà maintenant une cinquantaine d'années, les navires se sont considérablement spécialisés. Donc on va parler d'une spécialisation des navires. En fonction de ce qu'ils transportent. Hein. Il y a des céréaliers, des navires dédiés au transport des céréales, des méthaniers dédiés au transport du gaz, des supertankers dédiés au transport du pétrole, voilà. Donc ça renforce considérablement l'efficacité de ces transports, leur rapidité et leur moindre coût. Parce que ce qui fait que ce transport maritime est privilégié dans la mondialisation, bah, c'est qu'il ne coûte pas cher. Hein. Un t-shirt qui arrive de Chine jusque dans l'estuaire de la Seine, bah, ça coûte 0,02 centimes d'euros à peu près de le transporter. Donc vous voyez que c'est considérablement avantageux, ça explique, hein, tous ces flux par voie maritime. Et on va prendre un exemple emblématique de la mondialisation, hein, du transport, dans le transport maritime, justement. Cet objet, cet exemple, c'est le conteneur. Tout le monde voit ce que c'est, hein, un conteneur. Voilà, l'image ici représente un porte-conteneur, hein, donc ces immenses navires, et on voit toutes ces boîtes métalliques, hein, de 20 pieds de long, une norme standard, installée sur ce conteneur. Donc, véritablement, hein, on peut dire que le conteneur en français, conteneur, hein, en anglais, on parle également de conteneurisation, pour évoquer cette forme de transport, a permis d'optimiser considérablement le prix du transport maritime pour quantité de marchandises. Hein, on gagne du temps, puisque les objets sont chargés dans la boîte à la sortie de l'usine et sont déchargés sur les lieux de consommation. Hein, et dans l'intervalle, on peut faire passer ces boîtes d'un camion à un train, d'un train à un navire. C'est ce qu'on appelle l'intermodalité. Ça aussi, c'est un terme important à retenir. Hein, intermodalité du conteneur, intermodalité, voilà, hein, en raison de cette facilité qu'on a à passer ces boîtes d'un mode de transport à un autre, de façon donc très économique. Hein. La plupart de ces boîtes, hein, plus de 95% d'entre elles d'ailleurs, c'est bien révélateur, sont fabriquées en Chine, hein, et on peut, depuis n'importe quel port, qu'on soit à Los Angeles, à Singapour ou à Rotterdam, sur des portiques identiques, décharger et charger ces boîtes de manière très très efficace. Donc voilà, hein, cette spécialisation, les techniques sont à l'origine, hein, d'une accélération de cette mondialisation. Alors évidemment, on ne peut pas parler de l'amélioration technologique sans citer, bien sûr, Internet, la téléphonie mobile, toutes les nouvelles technologies de l'information et de la communication, hein, qui bien sûr sont également à l'origine de cette mise en relation, hein, et de l'interdépendance de plus importante du monde. Voilà. Donc, les techniques, hein, essentielles dans ce processus, mais attention, hein, il ne faudrait pas non plus réduire la mondialisation à ces seules techniques. Et un troisième point qu'on va évoquer ici, c'est qu'au-delà des techniques, cette mise en relation du monde, c'est également des idées. Voilà. Hein. Et parmi les idées qui prônent la mondialisation, qui prônent l'ouverture des frontières, il faut citer ce qu'on va appeler le libéralisme. Donc le libéralisme, une théorie dont vous avez déjà entendu parler, hein, qui remonte au XVIIIe siècle, son père est Adam Smith, qui prône donc la libre circulation, l'ouverture des frontières, laisser passer, laisser circuler, la libre entreprise également, l'initiative privée. Et cette théorie a été largement promue, surtout au XXe siècle, et en particulier dans la deuxième moitié du XXe siècle, par les États-Unis. Et à l'évidence, cette accélération qu'a connue la mondialisation, on parlait tout à l'heure des années 90, est liée aussi à la fin de la guerre froide, et ce qu'on pourrait appeler le triomphe des idées libérales, des idées portées par les États-Unis à l'échelle planétaire. Et cette concomitance est tout à fait intéressante entre, d'une part, l'arrivée de ces nouvelles technologies qu'on évoquait tout à l'heure, hein, le développement d'Internet correspond au début des années 90, et 1991, hein, la chute de l'URSS et la faillite finalement de l'idéal communiste. Donc la conjonction, vous voyez, hein, à la même période, de phénomènes techniques et de phénomènes idéologiques a produit une accélération considérable de ce phénomène de mondialisation dans ces années 1990. Les idées sont promues au-delà des États-Unis par un certain nombre d'organisations dont on aura l'occasion de reparler, mais on peut déjà citer l'Organisation mondiale du commerce, ex-GATT. Nous en reparlerons un petit peu plus tard, hein, donc le GATT, qui s'est appelé à partir de 1995 l'OMC. Voilà, enfin bon, tout ça, hein, retenez bien, donc on a des techniques, hein, qui ont favorisé ce processus de mondialisation, mais qu'au-delà des techniques, il y a également, et ne jamais l'oublier, des idées. Bien. Alors, tout cela fonctionne aussi, bien évidemment, parce qu'il y a des gens derrière, hein, qui animent cette mondialisation. C'est ce qu'on va voir donc maintenant dans la deuxième partie. On évoquait, en annonçant le plan, les acteurs, et on va donc évoquer les principaux acteurs de cette mondialisation dans le grand 2. Vous pouvez préciser tout de suite dans le titre que la particularité de ces acteurs, c'est qu'ils ont, ils sont nombreux, et qu'ils ont des intérêts, des buts, qui sont très souvent divergents. Voilà. Hein, ils ne sont pas tous d'accord entre eux et ils ne veulent pas la même chose. Voilà, alors parmi ces acteurs, on va distinguer trois groupes principaux, hein, il y aura trois sous-parties donc dans ce grand 2 également, trois groupes principaux d'acteurs. Nous parlerons successivement dans le petit 1 de ce qu'on va appeler les firmes transnationales, les FTN. Nous évoquerons dans une deuxième sous-partie le rôle, de façon générique, que l'on va appeler pour l'instant des États, voilà, avec un E majuscule, toujours. Et puis, dans un troisième point, nous allons évoquer le rôle de, d'un troisième acteur qu'on va appeler des instances régulatrices, pour l'instant. Hein, des instances régulatrices. Bon, voilà. Alors, FTN, firme transnationale, premier acteur à évoquer, des grandes entreprises. Hein, on parle aussi parfois de firme multinationale. Vous oubliez le terme, dorénavant, on retiendra firme transnationale. Hein, bon, il y en avait presque 100 000 dans le monde. Ce sont les principaux agents de la mondialisation, hein, ce sont elles qui animent les deux tiers au moins du commerce mondial, elles assurent le quart de la richesse mondiale, ce sont elles qui envoient de l'argent, hein, dans les pays où on investit, ce qu'on appelle les investissements directs à l'étranger. Bien sûr, ces firmes transnationales ont un ancrage national, hein. Elles appartiennent à un pays, elles ont une nationalité, leur siège social, il se trouve avec des productions à haute valeur ajoutée, hein, des centres de recherche, d'innovation, et puis néanmoins les firmes transnationales, on voit qu'on en trouve de très nombreuses bien sûr dans les pays du Nord, mais il y a également de plus en plus de firmes transnationales des pays du Sud, c'est un peu la nouveauté de ces dernières décennies, avec une émergence de pays comme la Chine par exemple, le Brésil, qui disposent de grandes firmes transnationales. Alors, le but de ces grandes firmes transnationales, c'est bien évidemment de réaliser du profit, hein, et de jouer de tous les avantages comparatifs qu'offrent les différents pays, de manière à optimiser au maximum leurs profits. Alors, avantages comparatifs, hein, ça rejoint la notion qu'on évoquait tout à l'heure de division internationale du travail, qui conçoit, voilà, que chaque pays a des atouts, par exemple un pays du Sud, en Chine, exemple, hein, a une main-d'œuvre bon marché, donc on va installer dans ce pays des usines où on a besoin d'une main-d'œuvre qui ne soit pas forcément bien formée, et on va réduire considérablement le coût des produits, et puis à contrario, pour les activités à haute valeur ajoutée, la recherche, les activités de marketing et autres, eh bien on s'adressera à des pays où il y a une forte capacité de formation, hein, des ingénieurs, et c'est bien souvent là où se trouve le siège de ces firmes transnationales. Voilà. Bon. Voilà pour ces FTN. Ensuite, en position centrale, alors, on trouve ce que j'appelle ici les États, hein, mais qui renvoie également à ce qu'on appelle les associations régionales. Les associations régionales, ce sont des regroupements à l'échelle de parties du monde, comme l'Union européenne, par exemple, hein, qui promeuvent souvent la coopération économique à l'échelle de ces grandes régions, mais qui ne sont que des représentants des États qui les composent. Donc ça relève également de la même chose, et on citera également dans cette catégorie les organisations internationales, hein, de type ONU par exemple, hein, puisque ces organisations dites donc internationales dépendent également des États dans les décisions qu'elles peuvent prendre. Alors voilà. Alors les États ont pour but d'abord de réguler l'action des FTN, l'action des partenaires privés, donc par le biais de la loi. Hein, et puis, néanmoins, les États ont également vocation à encourager l'action de ces FTN, puisque c'est générateur de richesses, ça promeut la croissance, l'emploi, et ça permet le développement de ces États. Voilà. Donc ces États sont un petit peu pris, vous voyez, entre d'une part ces FTN, et puis d'autre part ce troisième acteur qu'on évoque maintenant, que j'appelais tout à l'heure, pardon, les instances de régulation, hein, et qui sont composées pour l'essentiel de ce qu'on dénomme les organisations non gouvernementales, les ONG. qui bah, précisément donc, ne dépendent pas de ces fameux États, qui ont donc une plus grande liberté d'action, une liberté de parole. Et il existe dans le monde aujourd'hui des ONG qui agissent à l'échelle planétaire et qui défendent des causes diverses, hein, les causes environnementales par exemple, avec Greenpeace, qui vont défendre les droits de l'homme, avec Amnesty International, qui vont essayer de développer la santé, c'est le cas donc, de Médecins Sans Frontières par exemple, qui vont protéger la nature, l'environnement, le WWF, c'est le petit panda, le World Wide Fund, bref. Autant donc d'ONG qui ont un rôle bah oui, de dénonciation parfois des excès de la mondialisation, qui sont là pour essayer de mieux la réguler.
Me revoilà au micro, je voulais en fait, vous dire un bail, parce que l'émission est terminée. Voilà, pour plus d'informations sur l'émission, vous pouvez nous rejoindre sur nos réseaux sociaux Twitter et Facebook. Également, on a l'adresse courriel news@commercialsecurity.ca. Par téléphone au 514-448-4041. 514-448-4041. Et donc, je vous dis à la prochaine au 28 janvier 2021. Et je vous souhaite donc un bon réveillon, et puis un joyeux Noël, et puis une bonne année également. Donc, à bientôt, puis on se laisse encore pour peut-être quelques deux minutes là, avec notre reportage sur la mondialisation. À bientôt!
Good evening. You are listening to Upstage on CKUT 90.3 FM and CKUT.ca, the show about theater on the radio, covering everything in Montreal, from drama to musicals to comedy to burlesque. I'm your host, Sarah DeA. It's Christmas Eve and our final show of 2020. And tonight I present to you, as a treat, an audio drama that will be familiar to your ears, but with a local retro take. A Christmas Carol by Charles Dickens. The Campbell Playhouse Radio Show in the United States presented this evergreen classic on December 24th, 1939, 81 years ago tonight. It actually became an annual tradition for the program. Legendary actor Lionel Barrymore reprised his role as Ebenezer Scrooge, and producer Orson Welles introduced the story.
There is, I think, in all America, nothing more eagerly awaited, more firmly rooted in the hearts of the radio family that numbers millions, of this yearly performance of A Christmas Carol. A Christmas Carol, as Charles Dickens wrote it, has by common consent long been a classic. Mr. Lionel Barrymore's appearance in it is rapidly becoming one.
Dickens' tale celebrates bringing good cheer and caring for others, ever important in this bleak time of illness and struggle, where we are isolated from each other physically, but can be together virtually, where we have to fight for every drop of happiness while doing our best to keep ourselves and others safe. We have re-recorded the Campbell Playhouse script tonight.